Anne Besson m'a demandé de présider cet après-midi. Elle savait à quoi elle s'exposait. Comme elle l'a fait en toute conscience, je me sens libre. Donc, on va reprendre la séance interrompue par ce repas gastronomique. Et on va passer à une partie... Alors, on va continuer apparemment à l'alternance entre les historiens et les littéraires, au moins dans une première partie. Et on va commencer donc par William Blanc, qui va nous parler de voir le passé en vers, histoire et géographie des orques dans la fantasy. Alors, William Blanc est un historien, un spécialiste d'études médiévistiques, qui a fait une thèse à l'université de Paris 1 et qui est l'auteur de deux ouvrages dont j'ai vu au moins un des deux là-bas, mais peut-être les deux, hein, Les historiens de garde de Laurent Deutsch à Patrick Buisson, La résurgence du roman national en 2013, et Le roi Arthur, un mythe contemporain d'Hollywood à Camelot en passant par les Monty Python. Et si j'ai bien compris, c'est une collaboration avec ma voisine de gauche, c'est
ah
ça non,
non.
Ah non.
Tout seul comme un grand.
Tout seul. Bon, d'accord. Eh bien, il l'a fait tout seul.
Donc, il fallait pas le dire.
Donc, Monsieur Blanc fait des livres tout seul. C'est très bien. Et il se consacre donc à la vulgarisation à travers plusieurs médias, un magazine Histoire et Images médiévales et notamment une web radio, Fréquence médiévale. Et donc, William, je vous donne la parole. Je vais aller vous écouter là-bas parce que je suis bien là-bas, mais
okay.
Mais
je peux y aller aussi là-bas.
Ouais, on y va ensemble.
On y va ensemble.
On se prend un café, on y va ensemble.
Très bien.
Allez, on est
parti.
Merci.
Bon, bah écoutez, merci à toutes les organisateurs et les organisatrices pour l'invitation. Donc, il me revient la difficile tâche de reprendre pendant la pause digestion. Donc, je vais essayer de vous maintenir éveillé avec mes histoires de bonhomme tout vert. Donc, les orques, alors on l'a vu ce matin, donc l'histoire et la géographie sont très importantes dans la fantasy.
Je
prends un exemple en fait pour illustrer ça, avec un univers de jeu de rôle en fait, hein, de fantasy qui a été créé dans les années 60 et qui a été adapté après en jeu de rôle dans les années 80. Donc, c'est l'univers des Forgotten Realms, les royaumes oubliés. C'est l'univers le plus joué en fait de Donjons et Dragons et sur lequel il y a eu le plus de livres pour l'univers de Donjons et Dragons. Et là, vous voyez, vous avez deux suppléments pour cet univers-là. Hein, donc un qui est paru en 1990 qui s'appelle l'Atlas des Royaumes Oubliés, qui est un atlas complet hein, donc sur l'univers donc des Royaumes Oubliés, et un autre qui est paru en 2007 hein, qui est assez intéressant, qui s'appelle Grand History of the Realms, donc la grande histoire des royaumes. Publié en 2007, 160 pages, et c'est uniquement de la chronologie en fait, de l'univers. Donc c'est là, encore une fois, on voit que l'histoire est omniprésente en fait dans les univers de fantasy. Et donc j'ai décidé de parler des orques. Moi j'aime bien ça, les orques. Hein, donc et les orques sont l'altérité, une des altérités majeures de la fantasy. On pourra en discuter. Hein, il y a aussi par exemple les dragons, mais les orques en fait accompagnent la fantasy quasiment depuis la création du genre comme étant un peu les méchants récurrents de la fantasy. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est leur place dans cette histoire, hein, dans l'histoire de cet univers imaginaire. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ça rejoint un peu ce que j'ai pu entendre. J'ai pu entendre de l'intervention de Florian en fait tout à l'heure. Quand on regarde bien l'univers, les univers de fantasy, on se rend compte que souvent, même s'il y a plusieurs manières en fait d'envisager l'histoire dans les univers de fantasy, il y a plusieurs régimes d'historicité pour parler en termes historiens. Assez nettement, il y a souvent dans les univers de fantasy quelque chose de récurrent, c'est qu'il y a une vision progressiste de l'histoire. Et moi, je fais remonter ça, je pense que l'influence de... C'est un personnage qui n'est pas très connu, mais qui est pourtant très influent, à un anthropologue qui s'appelle Lewis Henry Morgan, hein, donc qui a publié un livre qui s'appelle Ancient Society en 1877, qui a fortement influencé d'ailleurs Marx et Engels après, hein, dans leurs écrits historiques, et lui décrit en fait l'évolution des sociétés en les découpant, en fait, en faisant une nomenclature entre sociétés primitives ou sauvages, hein, les sociétés barbares et les sociétés civilisées, hein, sociétés civilisées étant en fait le parangon, en fait, l'ultime stade de l'évolution de l'histoire. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve ce type de nomenclature dans les jeux de rôle. Il y a un jeu de rôle qui s'appelle RuneQuest, par exemple, où les personnages, en fait, sont divisés, les sociétés sont divisées entre sociétés primitives, nomades, barbares et civilisées. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des univers de fantasy, d'ailleurs, encore une fois, on le voit souvent dans beaucoup de romans de fantasy, les romans de fantasy décrivent non pas l'univers depuis ses origines, mais se situent après, généralement, la création. Et dans cet après, en fait, par exemple, le Seigneur des Anneaux se déroule au troisième âge du monde. Dans cet après, la plupart des races sont parvenues à un stade civilisé. Elles ont des villes, hein, elles ont des royaumes constitués. Et sauf que généralement, dans ces après-là, les orques sont soit apparus en second et donc sont en retard sur le dans le processus d'évolution en fait de leur société, soit sont condamnés par nature, hein, de manière à sont essentialisés comme étant des primitifs ou des sauvages ou des barbares qui en fait ne sortiront jamais de ce stade-là. Alors, je reviens très rapidement sur Tolkien. Tolkien, c'est celui qui crée quelque part les orques modernes en fait. Hein. Les orques apparaissent en fait dès la première nouvelle qu'écrit Tolkien sur la Terre du Milieu, hein, la chute de Gondolin, qui est rédigée en 1916, au moment où Tolkien rentre des tranchées, et qu'il écrit donc la destruction d'une ville elfique, d'une cité elfique, celle de Gondolin, par une armée de dragons et d'orques. Et dans Tolkien, en fait, très rapidement, donc, il décrit les orques dès le début, hein, et il dit que les orques sont des créations, en fait, non pas des créations divines, hein, c'est pas des créatures qui sont apparues en même temps que les elfes ou les nains, mais ils ont été créés par Melkor, le génie du mal, hein, celui qui va devenir Morgoth dans les versions ultérieures. Et en fait, quelque part, les orques représentent, si on lit bien la chute de Gondolin, ça représente, hein, ça, Tolkien, il colle ses souvenirs des tranchées sur cette nouvelle, les orques représentent la folie, la brutalité de la guerre industrielle. Donc, quelque part, les orques, chez Tolkien, c'est pas vraiment des barbares, de prime abord, ce sont plutôt une espèce d'émanation, un peu comme des créatures de Frankenstein, hein, quelque part, hein. Je fais un parallèle un peu osé, mais c'est un peu ça. Ce sont des émanations de cette modernité industrielle complètement folle. Hein. Il y a des citations, hein, par exemple, une citation que je reprends souvent, hein. Donc, dans la chute de Gondolin, Melkor rassembla tous ses plus adroits forgerons et sorciers, et de fer et de flamme, ils façonnèrent une armée de monstres, des orques armés de cimetières et de lances. Leur cœur était de granit et leur corps déformé, immonde leur visage qui ne souriait point, mais leur rire était celui du fracas du métal. Et en fait, il dit que Melkor, hein, donc a créé les orques, en fait, a engendré les orques depuis les chaleurs souterraines et la boue. Hein. Donc on a vraiment cette espèce de création, en fait, quasi démiurgique, infernale, en fait, des orques par Melkor. Et en fait, dans la plupart des versions que va produire Tolkien par rapport à l'origine des orques, il y a un point récurrent, c'est que les orques arrivent en second et ils ne sont pas une création divine, mais une imitation en fait de la création par Melkor ou Morgoth. Là, je reprends, pris un tableau, c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est Julien Mansecal pour le site tolkienguide.com en 2006, où il récapitule en fait, hein, l'article est vraiment intéressant, il est très bien fait, il récapitule les différentes versions en fait des orques, hein, pour finir avec celle définitive du Silmarillion, hein, et donc à chaque fois les orques c'est soit des elfes pervertis, hein, voilà, dans la version du Silmarillion, soit fait de pierre en fait, hein, ou fait de boue. Encore une fois, dans la plupart, l'immense majorité de ces créations, les orques apparaissent après. Hein. Ce sont un peuple, c'est pas un peuple premier, hein, mais c'est un peuple, on ne passerait l'expression, un peuple second, hein, quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez Tolkien, malgré tout, donc encore une fois, a priori, chez Tolkien, les orques, c'est une émanation de l'industrie ou de la modernité. Mais chez Tolkien, mine de rien, il y a quelques petits éléments qui montrent bien que les orques, c'est autre chose, en fait. Ce sont aussi, Tolkien les compare assez ouvertement à des barbares, du moins dans l'imagerie des barbares, hein, comme il peut y avoir en Occident, les barbares, donc des grandes invasions, en fait. Il suffit de lire, par exemple, une lettre, hein, qu'il a écrite en juin 58 à Forrest J. Ackerman, et qui lui-même voulait adapter, semble-t-il, Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Et il dit, je vais faire des orques, des espèces d'oiseaux, hein, je vais faire des oiseaux, voilà. Et en fait, Tolkien dit, non, c'est hors de question, c'est pas ça, les orques, en fait. Hein, donc, Tolkien décrit les orques dans sa lettre. Il dit, ce sont des êtres courts, larges, qui ont le nez plat, la peau jaunâtre, ils sont pas verts, hein, les orques, hein, une grande bouche et les yeux bridés. En fait, des versions dégradées et repoussantes, des moins agréables pour les Européens, des types mongols. Donc on a donc une allusion, en fait, les orques seraient donc des Mongols. Et après, quand on regarde pendant les deux tours, hein, donc les orques qui ont enlevé Merry et Pippin sont basanés, hein, ouvrez les guillemets, et aux yeux bridés. Hein. Et en fait, quand on regarde bien, souvent les orques, Tolkien associe aux orques des termes qui sont eux-mêmes associés justement aux Huns de Attila ou aux Mongols en fait de Gengis Khan. Donc donc les Huns de Attila, donc qui sont un peu le prototype même de la population barbare, hein, détruisant Rome pendant les grandes invasions, même si aujourd'hui en histoire on est revenu largement sur ce concept. Donc par exemple, les orques sont armés de Sinter, hein, donc c'est évidemment des âmes très orientales, hein. Les armées sont qualifiées par Tolkien de Horde, hein, qui renvoie par exemple à la Horde d'or des Mongols, et leur origine géographique est évidemment céleste. Et ensuite, il y a aussi leur idiome, hein, que voulait écrire Tolkien. Tolkien avait un projet d'écrire une langue orque, hein, il n'est pas allé au bout, et il voulait appeler ça le Magol en fait, et il voulait s'inspirer du hongrois. Et l'hongrois étant elle-même en fait une langue stépique, hein, voilà, une langue de la famille finno-ougrienne, hein, si je me souviens bien. Donc voilà, donc c'est encore une fois, il y a des éléments. Et quand on regarde encore une fois, alors au premier âge, hein, les orques généralement viennent du nord, mais ils viennent du nord, mais c'est une marge du monde encore une fois. Hein. Ça peut aussi rappeler quelque part, hein, là on pourra en discuter avec Laurent, ça peut aussi rappeler quelque part. Hein, oui, je prévois déjà tes questions à l'avance. Et donc. Et donc voilà, ça peut rappeler évidemment les Vikings. Pareil au troisième âge, hein, là c'est l'image typique, hein, que vous connaissez toutes et tous, hein, donc Mordor, hein, voilà, donc le grand pays de Sauron, et qui est évidemment à l'est. Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde des jeux de rôle, cette vision de Tolkien, le monde des jeux de rôle, la plupart des univers de jeux de rôle vont évacuer l'aspect, on va dire, d'horreur moderne des orques pour ne garder que l'aspect barbare. Je reviens justement sur Forgotten Realms. Donc là, vous avez une carte, hein, qui est de 2008. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le principal royaume orque, en fait, est placé ici, au nord. Hein, donc, et derrière cette chaîne de montagnes qu'on appelle l'épine dorsale du monde, ou aussi qu'on appelle bizarrement le mur. Elle rappelle quelque chose. Voilà. Et donc, encore une fois, les orques sont placés géographiquement dans une marge. Et même dans la théogonie d'ailleurs, hein, de ce monde-là, donc la création divine de ce monde de Forgotten Realms, vous allez avoir le dieu orque qui répond au doux nom de Grunch. Voilà. Voilà, très sympa. Voilà, donc vous l'avez ici, c'est un selfie. Et donc Grunch, donc, dans Dragon Magazine en 1982. Quand on décrit la création du monde, en fait, hein, les dieux, elfes, nains, humains, hobbits sont partagés le monde, et Grunch arrive en dernier, encore une fois, et il aperçoit que le monde entier a été partagé entre les différents dieux, et il est un peu en pétard, donc il décide en fait de frapper différents territoires avec sa lance, et en les frappant, il les transforme en désert, hein, il dit voilà, c'est là où mon peuple va vivre maintenant, c'est là où il va se multiplier, puis un jour ils seront tellement nombreux qu'ils vous déborderont tous, et ils vont conquérir votre toutes les terres connues. Et d'ailleurs, on reviendra sur l'image encore une fois de Grunch, en fait, hein, quand on regarde bien, ça me rappelle déjà, il y a l'histoire du casque à cornes, hein, donc même si ça fait un pas trop viking, mais ça fait un petit peu viking, il y a aussi l'œil unique, en fait, hein, qui rappelle évidemment Sauron, mais aussi qui rappelle à mon avis Odin, en fait, notamment avec la lance aussi, hein, donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Je cite aussi un texte, alors dans les royaumes oubliés ont été décrits pour la première fois en jeu de rôle en 87 dans le campaign set, hein, qui est sorti, hein, qui est un des grands succès, hein, donc du jeu de rôle Donjons et Dragons. Et voilà, il y a un seul passage qui est consacré aux orques, hein, dans ce supplément. Un passage très court, hein, c'est le magicien, le plus grand magicien du monde, s'appelle Elminster, qui décrit les orques. Hein, et dit les orques ont existé dans le royaume aussi longtemps que les elfes. Donc là, pour le coup, a priori, les orques ne sont pas arrivés en second, hein, ils arrivent en même temps. Car les récits elfiques mentionnent ces nombreuses créatures comme des envahisseurs brutaux attaquant sans cesse les frontières de leur royaume. La plupart du temps, les races goblinoïdes ont été repoussées et détruites, mais de nombreux hauls, nains, sont tombés aux mains des orques. Les races goblinoïdes sont généralement désorganisées et sous-équipées et auraient été depuis longtemps éradiquées si elles ne se reproduisaient pas rapidement. Alors, les passages ont été soulignés par moi, hein, donc voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant déjà dans ces éléments, même si a priori on pense que voilà, les elfes là, enfin les orques sont arrivés en même temps que les elfes, mais il y a encore une fois des éléments qui renvoient les orques à une forme en fait de barbarie ou de sous-développement dans la conception progressiste de l'histoire. Par exemple, vous voyez que les orques en fait se reproduisent rapidement, ce qui renvoie en fait, et ça c'est une constante en fait dans la plupart des univers de fantasy que j'ai pu voir. Les orques en fait font ça comme des lapins, puis ils ont 40 enfants en fait, hein. C'est hallucinant et c'est constant. Là vous avez un autre univers, c'est Shadowrun en fait, hein, donc dans la troisième édition en 1998, vous allez avoir une description des différentes, alors c'est un univers de cyberpunk en fait, hein, donc, mais où il y a plein d'éléments de fantasy, vous avez la description physique des orques, hein, donc les orques ils sont ici, donc ils vivent 35-40 ans, donc ils vivent jeunes en fait, hein, ils meurent très jeunes, et voilà ce que dit en fait un orque par rapport à sa propre culture. Nous développons de plus en plus nos propres coutumes et notre culture, si bien que les autres devraient commencer à mieux nous comprendre. Il vaut mieux pour elles d'ailleurs. Les femmes orques donnent fréquemment naissance à un grand nombre de bébés, ce qui fait de nous la population qui augmente le plus rapidement. Et donc évidemment, cette démographie avec mortalité très forte et natalité très forte renvoie en fait, hein, pour les spécialistes de la démographie, hein, à une démographie d'avant la transition démographique, donc ce qu'on appelle la démographie d'Ancien Régime, hein, ou la démographie, ce qu'on appelait aussi encore quelques années, la démographie des pays sous-développés, hein, donc, alors que les pays développés, donc occidentaux, connaissent eux donc une natalité faible et une mortalité faible. Voilà. Donc là, encore une fois, les orques sont repoussés dans une forme de barbarie ou de sous-développement. Je reviens au texte des royaumes oubliés. Encore une fois, là, le texte, ce que vous avez sous les yeux, c'est le seul texte, en fait, hein, c'est le seul passage où les orques sont décrits. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez bien le début, les orques ont existé dans les royaumes aussi longtemps que les elfes, car les récits elfiques mentionnent ces nombreuses créatures. Et donc là, encore une fois, on voit que l'histoire des orques n'est pas racontée par les orques eux-mêmes, mais c'est raconté par les sources elfiques. Et donc les orques n'écrivent pas leur histoire, donc c'est une culture qui n'a pas donc décrit, et donc c'est une culture préhistorique, donc qui est renvoyée encore une fois à stade primitif. Et pareil, encore une fois, hein, les orques sont des envahisseurs brutaux, et là on est dans le stéréotype, hein, du barbare en fait. Hein. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que, bon, encore une fois, hein, le barbare, j'ai dit, l'image de Grumsch, on voit très nettement, hein, l'image du barbare, le casque à cornes, hein, la lance, hein, le côté un peu énervé, hein, donc de ce dieu. Mais en fait, quand on regarde bien, même les joueurs, même les joueuses de Donjons et Dragons, ont complètement en fait, ont complètement pris pour eux en fait ce stéréotype. Par exemple, alors déjà, les orques généralement en tant que personnage joueur, il y a des demi-orques qu'on peut jouer dès 78 en fait à Donjons et Dragons. C'est quasiment que des classes guerrières, et en plus depuis 2005, depuis les 3e édition de Donjons et Dragons, la classe favorite des orques, ce sont les barbares. Et là, il y a eu des statistiques qui ont été faites donc entre le 15 août 2017 et le 15 septembre 2017 sur 100 000 en fait personnages créés sur le site D&D Beyond, donc c'est la boîte, enfin donc c'est le site officiel. Et bien vous voyez ici, donc vous avez là les orques, les demi-orques qui sont là. La classe favorite des personnages, enfin des joueurs qui prennent demi-orques, c'est le barbare en fait, hein, donc c'est 33% des demi-orques sont des barbares, et 19% des barbares sont des demi-orques en fait, hein, donc c'est encore une fois un stéréotype très fort. Alors mine de rien, hein, donc on a cette image un peu classique de l'orque barbare, mais cette image va évoluer en fait. Elle évolue parce que, l'idée de progrès, hein, l'idée de l'histoire progressiste est de plus en plus remise en cause aujourd'hui. Hein. Et aussi, on s'aperçoit que tout bêtement, l'idée que la civilisation occidentale serait en fait l'aboutissement logique de l'histoire est aujourd'hui de plus en plus remise en cause par les concepts post-coloniaux. Mais donc il y a plusieurs moyens, quelque part, de faire rentrer les orques dans l'histoire ou de les faire évoluer du stade barbare au stade, en fait, au stade civilisé. Alors la première manière, c'est donc de les faire tout bêtement. Alors, genre, j'ai pas le temps de parler de Warhammer, c'est dommage, mais je pense à une autre fois. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que donc voilà, vous avez une évolution, par exemple, dans les Royaumes oubliés. En 2008, vous avez un roman qui s'appelle Le Roi Orc, hein, en fait, hein, donc, dans lequel en fait un roi orc décide, hein, de créer un royaume, hein, de créer même une ville, et vous avez avoir des gens qui des héros, hein, des royaumes oubliés, notamment l'elfe noir en fait, Drist en fait, hein, qui a combattu des orques toute sa vie, qui dit bon bah, en fin de compte ça peut être pas mal si des orques évoluent, et voilà c'est ce qu'il se dit lui-même, hein, il est en train d'écrire lui-même, c'est une lettre qu'il écrit en fait par rapport aux orques, hein, et en fait il dit la question continue à monter, assistons-nous là à la naissance d'une civilisation, hein, là encore une fois les mots sont importants, est-ce que les orques loin de vouloir notre mort désirent nous ressembler, partager nos usages, nos espoirs, nos aspirations? Ou bien ce souhait a-t-il toujours été présent dans le cœur de cette race fière et primitive, voilà, bien qu'ils ignorent comment le concrétiser? Et si c'est le cas, si les orques peuvent se racheter, dompter leurs instincts, quelle serait alors la meilleure façon d'accompagner leur éveil à une culture plus civilisée? Là, on a quelque part l'aboutissement de la pensée en fait progressiste. Hein. Les orques passent, grâce quelque part un peu à la bonté des elfes et des nains, en fait, hein, d'un stade barbare à un stade civilisé. Même s'il y a évidemment des résistances, il y aura par exemple des elfes et des humains qui vont fonder un groupe qui s'appelle le CCC, hein, avec des cagoules, hein, on comprend tous à quoi ça fait allusion, chez un auteur américain. En tout cas, c'est une première manière quelque part de faire évoluer les orques. Il y a une seconde manière qui vient de Shadowrun, hein, donc cet univers cyberpunk. dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se déroule au milieu du 21e siècle, dans lequel en fait ça mélange donc background cyberpunk et univers de fantasy. Et là, ce qui est assez marrant, c'est que là, pour le coup, on est dans une barbarie. La barbarie des orques est toujours là, en fait. Hein. Les orques sont apparus après les elfes et les nains. Les nains apparaissent, en fait, en 2011, dans cet univers-là. Les orques apparaissent en 2021, donc c'est pour bientôt. Et ils subissent une forme de pogrom généralisé qui s'appelle la Nuit de la Rage en 2039. Et donc, les orques, dans cet univers-là, représentent assez nettement les Afro-Américains ou les minorités aux États-Unis. Et néanmoins, il y a toujours une forme, les orques ont toujours envoyé une forme de barbarie, mais positivée. Là, vous avez un roman qui s'appelle, de 1992, qui s'appelle Attention aux elfes. Il a bien raison. Donc, Attention aux elfes, donc 92, et le héros, c'est un orc qui s'appelle Cam. Et voilà ce que dit cet orque-là. Donc, comme la plupart des orques de la cité, Cam appelait son immeuble, donc c'est un immeuble à côté de Seattle, hein, donc il vit dans une espèce de banlieue, en fait, hein, le hall. Quelqu'un avait un jour raconté que les anciens vikings vivaient en communauté dans de grandes salles, de grands halls. Les vikings étaient des durs et les orques avaient besoin de s'identifier à quelque chose. Un zeste de mythologie rendait les choses un peu moins sordides. Et là, on a clairement les orques, hein, dans cet univers-là, qui se comparent, en fait, à des barbares, mais des barbares positivés. Les barbares sont forts, les barbares sont solidaires entre eux, voilà. Donc on a une forme de transformation de ce stéréotype l'orque barbare. Et d'ailleurs, hein, dans d'autres suppléments, par exemple, les orques en Scandinavie vont commencer à recréer des drakkars, mais des drakkars avec des hors-bords et tout, puis ils vont attaquer différents bateaux. Donc on a voilà, une espèce de retour des vikings par les orques. Et il y a une troisième forme... Il faut que je me dépêche. Ok, ben je me dépêche. Il y a une troisième, en fait, manière, quelque part, de transformer cette barbarie des orques. Donc, les orques étant des populations barbares, ils sont, quelque part, dans des univers de fantasy récents, une image des peuples qui sont restés, en fait, dans un état de primitivité, mais positivé. Hein. C'est, quelque part, des peuples premiers, mais qui ont gardé, en fait, face à une modernité qui devient de plus en plus agressive, de plus en plus folle, ils ont gardé des traditions qui permettent, quelque part, de vivre le monde de manière extrêmement positive. Là, dans un univers qui s'appelle Eberron, donc qui est un univers de Donjons et Dragons qui a été créé en 2004 pour remplacer les Royaumes Oubliés, les orques, en fait, apparaissent avant les humains dans un continent. Les humains arrivent après eux, hein, dans ce continent de Corvère. Les orques et les gobelins étaient la plus grande civilisation à voir le jour alors. Et les orques, en fait, ont fondé des traditions druidiques qui protègent le monde, en fait. Hein, là, on a une allusion évidemment à l'écologie, qui protègent le monde contre les démons de l'extérieur. Je n'ai pas le temps de parler, si j'en parle un tout petit peu. Je conclue. Alors, je voulais parler de Bright, mais en fait, dans Bright, c'est à peu près la même chose. Je vais conclure en lisant un passage donc du roman de. Troisième roman de Fabien Serruti, hein, donc qui sera là demain. Et c'est intéressant parce qu'il y a un passage dans son dernier roman où il parle des orques. Et là, on a une espèce de milkshake, en fait, hein, de mixeur, en fait, de tous ces stéréotypes-là. C'est assez intéressant. Les orques, écrit-il, traînent la réputation d'être la quintessence de la sauvagerie. Et celui-ci, il parle d'un orque, hein, ne semble pas déroger à la règle. Son odeur de musc, sa virilité barbare, ses muscles noueux, ses respirations de souffle, de forge et son front épais dégagent une impression de puissance dangereuse et indomptable. L'histoire sanguinaire de son peuple s'est égarée au cours des siècles, mais pour qui la connaît, elle inspire plutôt la pitié et le respect. On juge d'ordinaire les orques mufles et stupides, mais contrairement aux apparences, leur intelligence est vive et ils forment la plus ancienne des races pensantes de ce bas-monde. Là, on a l'image de l'orque, le peuple premier. Ils ont été les premiers à fouler le sol de la Terre, aux heures du premier âge, lorsque la jeunesse de l'écorce faisait fréquemment cracher des volcans. Et ce sont eux qui ont découvert comment utiliser la source, donc les orques ont inventé la magie. Question élégance, les dieux des débuts ne les ont pas ratés, forgés dans la boue et dans le roc. Là, on a évidemment une allusion à Tolkien. 7 pieds de viande tissés d'enchantement de vie, de procréation et de férocité, mangeurs de chair et buveurs de sang, avec des femelles capables d'enfanter 8 rejetons par mois et de dévorer les plus faibles. On a l'image, encore une fois, de la démographie d'Ancien Régime. Donc on a, dans le texte de Fabien, en fait, une espèce de condensé un peu de tous les stéréotypes. Et encore une fois, ce que disait tout à l'heure Florent, c'est que c'est amusant, c'est qu'on a, même si on veut faire évoluer, là les orques sont plutôt des êtres intelligents, mais même si on veut faire évoluer les orques, on a toujours cette espèce de renvoi, que ce soit négatif ou positif, à une forme de barbarie primitive qui est un stéréotype récurrent, en fait, de la plupart des univers de fantasy que j'ai pu étudier. Merci beaucoup.
Bon, et ben, William, merci beaucoup, parce que c'était redoutablement dynamique, donc c'est impeccable. Alors, moi, je commencerai par... c'est mes vieux réflexes mythiques qui me reprennent aujourd'hui, décidément. Je ne peux pas m'empêcher de penser au golem pour la création seconde. Hein, comme ouais. Chez Tolkien, hein, attention, les autres après s'inspirent de Tolkien, c'est évident. Mais la création seconde comme création
ratée, ouais, j'y ai jamais pensé. Ouais.
Avec Frankenstein, ouais. Hein, n'empêche pas l'autre, puisque Frankenstein en est lui-même clairement inspiré. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que d'une certaine manière, on enchaîne sur ce que fera Caroline Duvezin-Cobet tout à l'heure, avec cette lecture par le post-colonial qui permet de leur redonner en quelque sorte une place dans une histoire potentielle du monde. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Il y a des questions dans la salle sur les orques. Moi, je préfère les trolls, mais bon, il a réussi à me convaincre.
Ah, mais ça, d'ailleurs, c'est marrant parce que les trolls, en fait, hein, quand on regarde dans nos univers comme RuneQuest, hein, les trolls, en fait, c'est les orques, en fait. Hein. Voilà, c'est très nettement, enfin, c'est la même chose.
Mais bon, tu vas pas commencer à me casser mes trolls.
D'accord, ok. Je me tais alors.
Est-ce qu'il y a... Oui, tu me casses les trolls. Ça, on va dire ça comme ça.
C'est pas mal.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Le micro, ça serait bien s'il circulait. Voilà, le micro live, le voilà.
Il arrive.
C'est qui là? Celui qui va parler. Comment? Alors, Nicolas Le Breton qui essaie de brancher le micro, mais j'ai vu ce matin tout à l'heure, ça pose un vrai problème.
C'est ça.
Voilà.
Non, c'est science-fiction, ça. Deux choses. D'une part, moi, ce qui me semblait au niveau. Des orques, pas nécessairement le temps, mais il y a un vrai parallèle à faire peut-être avec les Klingons dans Star Trek.
Tout à fait, complètement.
En particulier au niveau de l'évolution de la perception.
Ah, complètement. Je pense que même l'évolution des orques doit beaucoup à l'évolution des Klingons dans Star Trek, les Klingons étant eux-mêmes une population barbarisée, comparée à des Vikings par exemple, ou à des samouraïs médiévaux, assez nettement, quoi. Voilà. Et en plus, par-dessus le marché, avant, dans les années 60, c'est les 1, en fait, les Klingons, en fait. Donc voilà, donc oui, il y a clairement une... Voilà, c'est très net. D'ailleurs, même la popularité des Klingons a amené la popularité des orques, quelque part. Hein, donc il y a assez net. En plus, beaucoup d'acteurs Klingons qui jouent des Klingons sont des acteurs afro-américains. Voilà, je pense qu'il y a clairement un parallèle qui est fait, même de manière inconsciente.
Et bien, c'était le sens de ma question. Est-ce que les Klingons n'ont pas favorisé cette évolution?
Oui, moi je pense, parce que les Klingons, ça arrive avant. Ça arrive avant. Mais enfin, en même temps, tu sais, Shadowrun, c'est 89. L'évolution des Klingons, la réelle, c'est Start, c'est Next Generation, c'est 87. Donc tu vois, on est à peu près à la même époque où, tout bêtement, c'est l'époque en fait, du début, l'aboutissement de la pensée des années 70 par rapport donc, à l'idée de progrès, l'ouverture sur le monde. Voilà. Donc je pense que c'est concomitant. Quoi.
Autre question. Après le Klingon, il y a un des grands Klingons qui est mort récemment.
J'ai
vu passer ça. Je ne sais plus quel acteur.
Est-ce qu'il y a eu des funérailles Klingon?
Peut-être, je ne sais pas. Peut-être dans l'espace.
Merci, William. J'ai trouvé ça super intéressant. Je pensais à plein d'exemples qui avaient dans ton sens. Évidemment, on en a parlé dans la
trilogie
Orcs.
Oui.
Les Orcs
qui donnent la parole aux Orcs. Les Orcs qui s'appellent Sancrasi. Oui. Alors en plus, par-dessus le marché, on apprend après qu'en fait, ils ont été importés d'un autre monde, et là, ça fait une référence à l'esclavage et tout, voilà, donc oui,
top. J'ai une question sur Wright, mais t'as fini là-dessus, c'est un peu parallèle.
Oui, alors, en plus, Wright, ce qui est embêtant, c'est que dans le film, c'est pas très clair, hein. L'histoire du monde n'est pas très claire, mais il y a une vidéo, hein, qui a mis Netflix sur YouTube, en fait, qui s'appelle History of Magic, qui décrit assez nettement l'univers, enfin, l'histoire de l'univers, et les orques ont été les premiers à se lever contre le Seigneur des Ténèbres. Et c'est après, quand la magie au XVIIIe siècle a été interdite par les elfes, en fait, hein, et les humains, que les orques sont devenus une population de seconde zone. Donc on a déjà cette image, en fait, hein, d'un peuple premier, hein, donc, qui est devenu un peuple opprimé, hein, un peu comme dans Shadowrun, quelque part. Même si là, ils sont apparus en premier. Hein, donc on a une espèce de mix entre les différentes versions.
J'avais une question, précisément, je l'ai amené à tout le début, hein, quand tu faisais le lien entre les orques et les mongols. Et il me semble, je suis presque sûr que c'est toi, mais il me semble t'avoir entendu parler de Prince Valiant.
Et ouais. Oui, oui, de toute façon, c'est en 39 où il y a un château qui est assailli, donc un château qui est en Autriche en fait, hein, qui est assailli, enfin en sud de l'Europe, qui est assailli par des 1, en fait. Alors là, c'est pareil, ils ont des visages extrêmement déformés, mais sauf qu'en fait, les 1, dans l'idée de l'époque, hein, les 1, c'est les Allemands, en fait. Hein, donc voilà. Donc c'est pour ça que chez Tolkien, et ça, c'est une métaphore qui est très présente. Alors, c'est-à-dire que chez Tolkien, il est possible que ces orques-là représentent, hein, une forme, voilà, de, voilà, d'allemand totalitaire et tout. Voilà. Donc c'est possible. Le problème, c'est que bon, il faudrait lui poser la question. Il est un peu plus là. Quoi, donc, voilà.
Merci. Donc, Olivier Caïra.
Une question sur la figure de l'orque.
Ouais.
Avec tout ce que tu nous as décrit sur les caractéristiques de cette race et le fait qu'elle soit racialisée, justement, la question du métissage me paraît très importante. Alors, est-ce que dans les manuels de jeu de rôle, on insiste sur les conditions dans lesquelles oui. on devient un demi-orque et quelles sont les implications, enfin, si on prend en deux minutes tout ce que tu nous as décrit sur le sous-texte politique qu'il y a, ouais. Quelles sont les implications de ce métissage?
C'est un peu, le problème, c'est que c'est un peu glissant, parce que dans Dragon Magazine 62, il y a un article là-dedans qui s'appelle the Half-Orc Point of View, donc le point de vue du demi-orc, où on explique que le demi-orc, il est voilà, entre deux os et tout. Mais alors, on explique aussi, si je crois me souvenir, qu'en gros, généralement, ce sont des femmes humaines qui sont violées par des orques. Voilà. Donc, si on examine ça quelque part en termes racial, en termes de rapport de racisme et tout, on a des stéréotypes qui sont appliqués là, qui sont des stéréotypes un peu glissants, je pense. Hein. Donc voilà, c'est un peu dérangeant. Il y a l'image que j'ai prise là au début de. Je ne sais pas si on l'a montré, mais l'image que j'ai prise en couverture, enfin, au début de la présentation, c'est l'image en fait d'un supplément. De 89 qui s'appelle Orc of Frar, donc qui décrit un univers de Donjons et Dragons, mais c'est pas le même que Royaume Oublié. Mais dedans, les orques sont comparés à des gros crétins, hein, mais sûrement ils ne savent pas écrire et tout. Sauf qu'on dit que les orques, en fait, il y a des orques à la peau rouge, et ils ont des noms d'Amérindiens, des orques à la peau jaune, ils ont des noms de Mongols. Donc c'est un peu. Voilà. Et puis il y a même une image où on les voit en train de danser le Smurf. Hein, donc voilà, donc il y a un côté, les orques c'est des rappeurs, donc c'est un peu glissant quand même, je trouve. Voilà. Mais là clairement, en termes, si on fait si on applique quelque part des techniques de post-colonial studies, là, on a un objet qui est assez nettement en fait raciste en fait. Hein, voilà. Donc, mais je pense que c'est de manière inconsciente, mais c'est assez frappant pour le coup. Et c'est marrant parce que 89 Orc of Frar, 89 Shadowrun. Hein, donc on a deux visions complètement différentes en fait.
Oui, alors cette histoire de racisme, ça m'a l'air relativement incontestable. Je pense que quelquefois, il y a du racisme inconscient. Quand on commence à en faire à la peau rouge, à la peau jaune et à la peau noire, ça commence à plus être tellement inconscient. Quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, bon, allez, je donne le bénéfice du doute aux auteurs. Voilà,
oui, non, mais il y a des fois.
Le truc, c'est que je pense qu'il y a un côté. Il y a un côté, parce que le supplément, il est un peu bizarre. Parce que ça propose aussi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est là où c'est ambigu, c'est que ça propose de jouer des orques. Dans ce supplément-là, l'Orc of Frar, on dit voilà, là c'est des orques, c'est un peu des gros débilos, c'est tout, mais vous pouvez les jouer parce
que c'est sympa à jouer.
Voilà, mais donc en fait, il y a un côté. Donc, et ça qui est intéressant, c'est que c'est même un des premiers suppléments qui propose aux joueurs de jouer des orques. Donc tu vois, c'est. Voilà, alors après, on pourrait dire limite, c'est du minstrel, en fait, hein, tu sais, les gens qui se grimaient en noir et tout, c'est une espèce de minstrel au jeu de rôle, mais bon, c'est quand même intéressant parce que c'est ambigu comme rapport.
Pas superposé à l'infini, mais bon, oui, là, oui. La description des races, elle est assez claire. C'est bon, on passe à la conférence suivante pour ne pas trop perdre de temps. Merci beaucoup, merci. William. Je regarderai les orques d'un œil nouveau désormais.